Vous écoutez France Culture.
Por primera vez en 20 años.
La rumeur du monde. La rumeur du monde, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani, petit panorama de la scène internationale. Jean-Claude Casanova et moi-même vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année et précisément pour essayer de commencer l'année avec des idées claires, en tout cas sur ce qui se passe de par le monde, nous souhaitions balayer un petit peu les grands sujets de l'actualité internationale, non pas tant pour les explorer complètement que pour recenser les fronts principaux, les problèmes, les abcès de fixation, les grandes questions stratégiques qui vont occuper l'année 2012. Et pour nous aider dans cette tâche ô combien difficile, nous avons avec nous Alain Frachon, qui est directeur éditorial au Monde, et Daniel Vernet, qui est éditorialiste à Slate.fr et qui anime également un site qui s'intitule boulevardextérieur.fr. Pour commencer, il faut peut-être rappeler quels sont les grands éléments qui sont de nature à influencer l'année que nous allons vivre, du moins j'espère du mieux possible. D'abord, le tournant stratégique américain. Nous en avions parlé dans cette émission, mais je pense qu'il faut y revenir parce que dans la foulée du discours d'Honolulu, de Barack Obama et d'Hillary Clinton, qui marque la priorité stratégique américaine sur l'Asie-Pacifique, et donc une forme de négligence, pour ne pas dire plus vis-à-vis de l'Europe, entre autres, il y a eu entre-temps un accord excessivement important, économique, commercial, monétaire, entre la Chine et le Japon, qui en portera des conséquences stratégiques probablement importantes. Et puis Barack Obama vient de, en quelque sorte, d'acclimater au plan militaire sa nouvelle stratégie en donnant aux forces de défense américaines une feuille de route qui intègre cette nouvelle donne. Il y a aussi ce qui nous préoccupe peut-être de plus près, c'est-à-dire la situation en Russie, où il va y avoir, comme en France et comme aux États-Unis, naturellement nous dirons un mot de la perspective des élections américaines, mais comme en France et aux États-Unis, en Russie, il y aura une élection présidentielle. Est-ce qu'il peut y avoir, à l'occasion de cette élection, une sorte de printemps russe, de renouveau démocratique en Russie? C'est une des questions que nous poserons, non sans nous préoccuper également du vent populiste qui souffle sur l'Europe et notamment sur la Hongrie, où la situation me paraît de plus en plus grave au plan des libertés. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, nous regarderons aussi les gesticulations actuelles, les menaces diverses et variées entre l'Iran et les États-Unis à propos d'un détroit qui est un détroit stratégique, puisque pour l'approvisionnement pétrolier, il est stratégique, qui est le détroit d'Ormuz, mais aussi les conséquences des révolutions arabes. On ne pourra pas évidemment tout traiter, mais on essaiera d'aborder les points clés de ces situations. Alors peut-être pour commencer, pouvons-nous regarder en effet ce qui s'est passé à la fois aux États-Unis et l'accord Chine-Japon qui est le prélude à une internationalisation de la monnaie chinoise, mais qui montre bien que la préoccupation chinoise est devenue l'axe, la préoccupation numéro un des États-Unis, Alain Frachon.
Oui, il y a eu ce voyage du président Obama dans le Pacifique en novembre, le discours d'Honolulu, le discours qu'il a prononcé ensuite devant les parlementaires à Canberra. Et puis il y a deux jours, jeudi, il est lui-même allé au Pentagone, ce qui est exceptionnel. À ma connaissance, aucun autre président américain n'a tenu une conférence de presse de ce type au Pentagone pour présenter deux choses. Le budget, des coupes budgétaires qui vont particulièrement affecter les forces américaines en Europe, le budget militaire américain, donc des réductions, des coupes assez fortes dans le budget américain, sauf dans une région, Asie-Pacifique, où au contraire la présence militaire américaine sera renforcée. Mais à cette occasion, il ne désigne pas la menace chinoise. Mais en revanche, à cette occasion, le Pentagone émet publiquement un document dans lequel il est dit Très exactement, sur le long terme, l'émergence de la Chine comme une puissance régionale en Asie a le potentiel d'affecter notre économie et notre sécurité de plusieurs manières. Donc on voit bien cette réorientation stratégique dont vous avez parlé et que le président Obama avait particulièrement pointé en novembre lors de son voyage, elle est là. Maintenant, les États-Unis considèrent que les problèmes de sécurité qu'ils peuvent avoir, c'est dans la région Asie-Pacifique. Non seulement les problèmes de sécurité, mais Hillary Clinton dit « notre avenir économique est là ». C'est là. Je vous rappelle que, par exemple, sur l'année passée, si l'on prend ce qu'a été la croissance mondiale, non pas le PIB mondial, mais la croissance mondiale, la part de progression du PIB mondial, plus de 50% de la croissance est due à cette région Asie-Pacifique. Donc réorientation confirmée. J'ajouterai une chose, le leadership va aussi changer en Chine.
Exactement.
Le président et le Premier ministre aussi.
Je ne l'avais pas évoqué parce qu'il n'y a pas d'élection à proprement parler en Chine, mais les changements, au fond, peuvent s'apparenter à un processus d'élection présidentielle, mais sauf que c'est programmé. Le changement est programmé, annoncé, les dirigeants sont préparés. Etc.
Voilà. Alors évidemment, toute la panoplie du pouvoir chinois est là. Les États-Unis ne sont pas simplement inquiets par le renforcement du pouvoir maritime, par exemple chinois, ou de leur capacité à faire la guerre dans l'espace, dans le cyberespace, mais il y a aussi la question monétaire. Bon, on n'est pas une grande puissance si sa monnaie n'est pas une devise mondiale. Alors, le yuan n'est pas une devise mondiale. Alors, petit à petit, de manière tout à fait progressive, les Chinois, depuis 3 ou 4 ans, passent des accords pour internationaliser le yuan. C'est-à-dire que des compagnies peuvent émettre des emprunts obligataires en yuan. Il y a des échanges qui se font en yuan, notamment dans la région avec Hong Kong, avec les Philippines, et maintenant aussi avec le Japon. Moi, je pense qu'on est encore très très loin d'une décision qui est une décision éminemment politique, qui serait d'avoir le yuan comme une véritable devise et qui amènerait vraisemblablement une réévaluation des produits chinois à l'exportation de 30 à 40%, voire plus. Je pense qu'on en est encore très loin.
Jean-Claude Casanova.
Oui, donc je suis d'accord avec les points que vient d'évoquer Alain. J'ajouterai simplement deux choses. Je crois qu'il faut être très attentif à ce qui va se passer aux États-Unis au point de vue budgétaire. Parce que dans la discussion sur la doctrine militaire future, se profile un problème budgétaire qui va devenir, à mon avis, aigu. Parce que les États-Unis sont en situation de déficit public. Le budget de la défense est un budget énorme. Il y a, si j'ose dire, des pressions économiques internes d'abaissement du budget de la défense. Et évidemment, le Pentagone et l'establishment militaro-industriel, comme disait le regretté président Eisenhower, va amplifier la vision inverse, c'est-à-dire la nécessité d'un accroissement à long terme des dépenses militaires, notamment en insistant sur ce qui exige des investissements à long terme, c'est-à-dire la puissance maritime et la puissance aérienne. Et quand on veut réduire les dépenses, on dit il faut former des hommes pour le combat au corps à corps, ça c'est mauvais signe au point de vue budgétaire. En revanche, si on veut que les budgets restent gras dans un avenir lointain, il faut dire la Chine est une puissance très menaçante, ça va être une grande puissance maritime, donc il faut investir dans des dépenses lourdes. Et je ne dis pas qui a tort et qui a raison, au fond je n'en sais rien, mais je trouve que le débat doit être un peu éclairé par cet angle. Et mon deuxième point concerne l'ouverture de la Chine, la devise chinoise. Ça serait souhaitable que le yen devienne une monnaie internationale, mais ça présuppose la pleine convertibilité. Et la pleine convertibilité, c'est l'ouverture aux capitaux étrangers, beaucoup plus libre qu'elle n'est actuellement, et un degré de transparence financière interne qui est certainement souhaitable, et pour la Chine, et pour le monde en général, mais qui fragilisera en même temps, parce qu'à partir du moment où on devient une monnaie internationale scrutée et où les comptes des banques sont regardés, où les capitaux se déplacent librement, où les places financières jouent un grand rôle, le maniement direct par le pouvoir politique chinois de la Chine devient plus difficile. Donc là-dessus, il y aura un grand pari politique de la part du gouvernement chinois.
Daniel Vernet, est-ce que, à vos yeux, la donne présidentielle aux États-Unis, qui est peut-être de nature à changer. Nous n'en savons rien. Nous allons dire un mot de ces élections présidentielles américaines. Est-ce qu'elle est de nature à infléchir ce tournant stratégique, ou bien est-ce que on est là dans un mouvement de fond très lourd et qu'une présidence, j'allais dire républicaine, peut-être plus attentive à notre partie du monde serait totalement impuissante à corriger?
Je crois qu'on est en face d'un mouvement de fond et d'une certaine manière, les États-Unis renouent avec une tradition ou une tendance, une impulsion en quelque sorte qui existe depuis la création des États-Unis. Et d'une certaine manière, le siècle 1914-2012, pendant lequel ils se sont intéressés à l'Europe, ce siècle est en train de se clore. Et ils se sont intéressés à l'Europe, les États-Unis, parce que les Européens, en 1917 et en 1941, les ont appelés au secours. Et là, je crois que c'est cette parenthèse historique qui se clôt. Et en plus, l'Europe n'est pas un problème pour les États-Unis. Or, l'Asie et le Pacifique, c'est là où se posent les grandes questions pour l'avenir de l'Amérique, comme il a été dit tout à l'heure. En même temps, je crois que si c'était un président républicain, il y aurait peut-être des différences sur justement ce dont on vient de parler, à savoir les dépenses militaires. Je crois que pendant la campagne électorale, quel que soit le candidat républicain qui va faire face à Obama, il va insister sur le fait qu'il ne faut pas réduire les dépenses militaires, ce qui d'ailleurs entraîne un certain nombre de contradictions au sein même du camp républicain, mais peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Et d'autre part, je pense que les États-Unis doivent faire attention aussi dans la manière dont ils présentent cette réorientation en quelque sorte de leur politique, et notamment de leur politique militaire vers l'Asie, pour ne pas donner aux Chinois l'impression que ce sont eux qui sont visés, parce que là, ça pourrait provoquer une espèce de course aux armements dont personne n'aurait plus la maîtrise.
Alain Frachon, comment voyez-vous cette bataille présidentielle américaine qui vient de s'engager, puisque s'est engagé le processus des primaires républicaines? Est-ce que vous pensez que le choix finalement des républicains sera vers Mitt Romney, qui est le plus, j'allais dire, modéré de tous ceux qui se présentent à la candidature, ou est-ce que vous pensez que les choses peuvent encore évoluer? Et surtout, comment appréciez-vous à ce stade, c'est-à-dire un peu moins d'un an avant l'échéance, la possibilité pour Barack Obama d'être réélu?
Écoutez, à ce stade, c'est difficile. La campagne des primaires républicaines vient de commencer. Elle a confirmé qu'aucun autre candidat n'était de nature à porter vraiment ombrage à Mitt Romney pour le moment. Ce qui ne règle pas le problème des républicains, parce que les primaires qui ont eu lieu dans l'Iowa ont montré que, au fond, l'électorat républicain n'est pas du tout enthousiaste pour Mitt Romney. Sur le plan national, je crois qu'il fait à peu près 25% de l'électorat. Donc, il est très largement devancé par Barack Obama. Mais aucun autre impétrant républicain, pour le moment, ne lui fait vraiment de l'ombre. Cela dit, ça ne fait que commencer. On ne serait pas étonné que dans le Sud, par exemple, et on va aller très vite dans le Sud, puisque maintenant le calendrier est ralenti. Je crois qu'après le New Hampshire, là, on reste dans la Nouvelle-Angleterre pour quelques temps, mais le New Hampshire, c'est la prochaine étape des élections primaires. Je crois que c'est vers le 10 janvier. Mais ensuite, très vite, on est dans un premier État du Sud, véritablement. Je crois que c'est en Caroline du Sud. Là, je ne serais pas étonné qu'un homme comme Santorum, qui représente le noyau dur des chrétiens fondamentalistes, qui est le noyau dur militant maintenant du Parti républicain, c'est lui qui impose très largement son programme face à un très bon score. Donc voilà, citons les gens qui sont sur place, les spécialistes. Je prends par exemple ce que disait sur son blog Robert Reich. Ancien ministre de Clinton, professeur d'économie à Harvard, lui dit le candidat républicain sera Mitt Romney par défaut. Et il sera obligé de prendre pour satisfaire un peu l'ensemble de la mouvance républicaine. Il prendra comme vice-président le sénateur, un jeune sénateur de Floride, Rubio, qui lui est très Tea Party, c'est-à-dire tout à fait ancré dans cette mouvance ultra-conservatrice. Et ils feront un ticket comme ça, espérant couvrir le spectre de l'électorat républicain. Et dit Robert Reich, ils seront vraisemblablement battus. Cela dit, Reich ajoutait aussi que les prévisions des politologues et des économistes diffère de celle des astrologues, en ce sens que celle des astrologues s'avère en général plus exacte que celle des politologues et des économistes.
On peut en tout cas considérer que aussi les chances de réélection de Barack Obama, évidemment l'adversaire compte, mais ses chances sont aussi indexées sur la situation économique. Et de ce point de vue-là, c'est la première fois qu'on voit quelques petits signes encourageants, Jean-Claude Casanova, sur ce qui se passe aux États-Unis.
Ce qui se passe en Europe peut affecter les États-Unis. Et malgré tout, si la situation économique de l'Europe empirait de façon grave, la renaissance américaine, les quelques indices assez favorables qu'on voit aux États-Unis risqueraient d'en subir la conséquence. Mais sinon, effectivement, aujourd'hui, on est dans une phase plutôt optimiste parce qu'il y a eu quelques indices plutôt bons et on voit bien que c'est le plan politique d'Obama, c'est-à-dire de lancer le vif de la campagne électorale, interviendrait au moment où les indicateurs sont le plus satisfaisants, surtout en réduction du chômage, qui est quand même le problème difficile, parce que les États-Unis ont un taux de chômage très inhabituel par rapport à leur tendance conjoncturelle.
Daniel Vernet.
Oui, je pense que en effet, Mitt Romney a tout à fait les chances d'être l'adversaire de Barack Obama, mais il s'est tellement renié dans ses déclarations, aussi par rapport à son action quand il était gouverneur. Je crois qu'il aura beaucoup de mal à s'imposer et à satisfaire tout l'éventail de l'électorat républicain qui effectivement est largement dominé maintenant par les fondamentalistes chrétiens, le Tea Party, mais qui a aussi encore une base sur la côte est des États-Unis, les républicains traditionnels, la gentry républicaine qu'il faut aussi mobiliser. Et donc c'est un peu la quadrature du cercle pour le candidat républicain. C'est les chances d'Obama qui sont augmentées d'autant.
Alors, sur notre continent, la préoccupation sera, elle sera française évidemment, parce qu'il y a des élections en France, mais elle sera russe également, puisqu'il y a une élection présidentielle en Russie. Et la nouveauté de l'année dernière, et peut-être sera-ce un mouvement qui se confirmera dans les semaines ou les mois qui viennent, c'est l'ébauche d'une opposition au pouvoir poutinien en Russie, avec évidemment cette... ce cas de figure assez inouï d'un président reprenant les rênes après un intermède où on l'a vu Premier ministre parce que la Constitution lui interdisait de faire 3 mandats, etc. On ne peut pas davantage marquer son mépris d'ailleurs des processus démocratiques que celui dont ont fait preuve à la fois Poutine et Medvedev. Est-ce que, à vos yeux, la donne peut changer en Russie ? Je sais bien que c'est une question extrêmement difficile parce que Poutine jusqu'à présent a été très fortement majoritaire, parce que l'opposition a eu beaucoup de mal à s'organiser, que ça lui est d'ailleurs interdit d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on peut penser à une sorte de printemps russe qui ferait que la Russie quitterait les rives extrêmement dangereuses de l'autoritarisme sur lesquelles Poutine l'a ramené pour celle plus plaisante et plus accueillante de la démocratie, Alain Frachon?
Écoutez, il faut voir aussi que c'est un candidat au poste à la présidence dont le parti vient d'essuyer, enfin je ne sais pas comment Daniel Vernet, qui connaît ça mieux que moi, le qualifiera, mais vient d'essuyer un échec, au fond un échec électoral ou législatif. Donc on le sent très affaibli et on sent visiblement que c'était une surprise, qu'il ne s'y attendait aucunement. On voit même certaines personnalités qui ont toujours été proches de lui et qui ont occupé des postes importants le quitter. Alors, je ne sais pas si c'est un homme seul, je ne suis pas assez familier de la scène politique russe, mais on sent bien que les Russes, l'électorat russe, n'a pas du tout aimé cette espèce de jeu de chaise musicale où, après avoir été Premier ministre, il s'apprête à nouveau à occuper la présidence pendant 2 mandats, se comparant à Franklin Roosevelt. On voit bien aussi que 70% encore de l'économie russe, c'est exclusivement l'exportation de pétrole et de gaz. Alors bon, les prix ont monté à cause du printemps arabe, donc j'imagine que l'état des finances publiques russes ne sont pas en mauvais état. Mais enfin, tout ce qu'on a comme signaux sont des signaux de mécontentement
à l'égard du leadership, de crise de la représentativité politique de Poutine et même de Medvedev, s'il occupe à nouveau le siège de chef du gouvernement. Et donc, je ne sais pas ce que nous réserve l'élection présidentielle russe, mais peut-être, en tout cas, manifestera-t-elle à nouveau une sorte de, peut-être non pas de rejet, mais en tout cas une crise de confiance très forte à l'égard de cet homme qui incarne le pouvoir russe depuis bientôt 15 ans.
Daniel Vernet.
Je crois que le printemps russe, il a eu lieu d'une certaine manière déjà dans les rues de Moscou au mois de décembre, parce que cette classe moyenne qui a profité des années Poutine d'une certaine manière et de la réorganisation de l'économie, de la croissance qui était liée effectivement largement à la hausse des prix du pétrole et du gaz. Mais c'est cette classe moyenne qui a manifesté dans les rues de Moscou et qui a pris la parole pour la première fois depuis 10 ou 15 ans et qui a manifesté son intérêt pour la chose politique. Ça, c'est une grande nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est qu'en effet, on se pose des questions sur l'élection présidentielle du mois de mars et sur son résultat, alors qu'il y a quelques semaines encore, tout le monde pensait que c'était une affaire acquise et que Poutine serait réélu tranquillement au premier tour grâce sans doute à une certaine forme de popularité qu'il ne faut pas nier, et puis aux manipulations et aux fraudes qui sont monnaie courante. Et les élections législatives et les mouvements qui ont suivi ces élections législatives montrent que les choses ne vont pas sans doute se passer aussi facilement pour Poutine et que s'il n'était pas réélu dès le premier tour, ce serait pour lui vraiment un grave échec, un coup de semonce et qui annonce sans doute des transformations en Russie, non pas dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, mais au cours du prochain mandat de Poutine, parce que vraiment, ce serait bien étonnant qu'au deuxième tour, l'appareil bureaucratique qui ressemble beaucoup à ce qui se passait du temps de l'Union soviétique dans une large mesure ne soit pas capable de faire élire son candidat.
Jean-Claude Casanova, en dehors de l'enjeu démocratique lui-même, il y a aussi le fait qu'un certain nombre de pays européens, je pense à l'Italie, je pense surtout à l'Allemagne post-nucléaire, vont être dans une dépendance de plus en plus grande du gaz russe, notamment. Et l'on a vu déjà que Poutine n'hésitait pas à utiliser l'arme du gaz pour faire prévaloir ses objectifs politiques. On l'a vu aux dépens de l'Ukraine. On pourrait le voir peut-être un jour à nos dépens. Comment regardez-vous cela ?
C'est incontestable. Je crois qu'au fond, si on regarde les cartes fortes et les cartes faibles de Poutine, les cartes fortes, il a la rente pétrolière et la rente gazière, c'est-à-dire au fond, il est en position d'exportateur, ce qui lui donne une balance excédentaire, des réserves de change, une certaine richesse en Occident, y compris une capacité de corruption donc vis-à-vis de l'Occident. Bon, il a une deuxième carte forte, c'est le nationalisme russe. Mais ces deux cartes, désormais, on voit apparaître deux cartes qui, elles, l'affaiblissent. C'est qu'il existe désormais en Russie une opinion et un début d'opposition. Or, c'est très difficile pour un régime autocratique, si vous voulez. Ils avaient raison d'être inquiets, l'entourage de Poutine et Poutine, ou bien les Chinois aussi, à l'égard du printemps arabe. Parce que ça veut dire qu'ils subodoraient que chez eux pouvait naître une forme d'opposition. Or, elle est apparue plus clairement qu'on ne le pensait. D'ailleurs, Alain disait que Poutine et les dirigeants russes ont été surpris. Mais disons-le, nous aussi, en Europe, en Occident, nous avons été surpris. Nous avions l'impression que il maîtrisait l'opinion. Or, manifestement, il n'a pas vraiment gagné les élections, il ne maîtrise pas l'opinion, les gens sont indignés du tour de passe-passe, et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent trouver pour renforcer leur système autocratique, parce que ils sont obligés d'une certaine façon de faire des réformes de modernisation de productivité, mais les réformes de modernisation et de productivité renforceront l'opinion et la diversité. Donc je pense qu'ils vont vivre une passe difficile, mais comme toujours, quand une autocratie est soumise à une épreuve, elle peut soit, excusez-moi de parler comme monsieur de la Palice, mais elle peut soit se renforcer, soit s'affaiblir.
Certes, mais en plus il y a les sommes d'argent disponibles pour le service du pouvoir de Poutine
et de sa propagande à l'extérieur.
Ce sera d'ailleurs un sujet pour nous un jour de consacrer une émission un petit peu approfondie à cela, parce que il y a différentes gradations dans les oligarques, les oligarques au service du pouvoir, il y a ceux que l'on exile et puis il y a ceux que l'on élimine purement et simplement, soit en les enfermant.
Est-ce que je peux rappeler qu'avant 1914, la Russie financer la quasi-totalité de la presse parisienne,
absolument,
comme cela est démontré dans l'admirable livre qui s'appelle « L'abominable vénalité de la presse parisienne » qui a été publié en 1922, tiré des archives, absolument, russes, et qui montrait que tous les journaux parisiens étaient financés par l'or russe.
Alors il y avait l'or russe avant 14, aujourd'hui il y a peut-être l'argent du Qatar, mais ça c'est un autre sujet, on regardera ça peut-être un jour de façon un peu plus précise. Juste un mot avant d'aborder la situation en Iran, parce que c'est une des grandes questions stratégiques également, et que là il y a des mouvements inquiétants. Il y a eu une sorte de duel avant l'heure entre l'Iran et les États-Unis sur lesquels nous allons revenir. Mais je voudrais juste terminer d'un mot sur le vieux continent en parlant de ce qui se passe en Hongrie. Où là, en Hongrie, à travers l'action de l'actuel gouvernement et du Premier ministre Orban, on a in vivo une première expérience de gouvernement populiste. Pour ceux qui s'interrogent sur ce qu'est le populisme, voilà, il est à l'œuvre en Hongrie, avec une constitution qui, si elle avait dû être examinée par les Européens selon les normes de Copenhague, les normes de Copenhague, c'est celles que les Européens ont mises au point pour accepter ou refuser l'entrée d'un pays dans l'Union européenne. Cette constitution n'est pas conforme aux normes de Copenhague. Donc c'est une situation gravissime qui voit un pays ouvertement membre de l'Union européenne enfreindre les principes élémentaires de cette Union, apparemment sans que les choses ne bougent trop pour le moment. Il a fallu, je pense, une mise en garde, une première mise en garde de Washington vis-à-vis de la Hongrie pour qu'on commence à voir les dirigeants européens commencer de s'en inquiéter. Que font M. Sarkozy et Mme Merkel, qui se sont autoproclamés directoires de l'Union européenne? Que font-ils face à cette situation? Daniel Vernet, comment regardez-vous la situation
hongroise? Oui, il y a deux éléments, vous avez tout à fait raison. Il y a deux éléments, il y a l'attitude de l'Union européenne qui est totalement passive vis-à-vis de l'évolution en Hongrie. Et il faut se souvenir qu'il y a une dizaine d'années, quand un mouvement populiste, aussi d'extrême droite, a participé au gouvernement en Autriche,
le FPO
a été puni.
Absolument.
A été puni. Là, personne ne bouge vis-à-vis de la Hongrie. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que j'ai peut-être une petite hésitation pour qualifier ce qui se passe en Hongrie de populisme, si, parce que bon, au moins dans l'acception traditionnelle du mot populiste, il y a un caractère de protestation, d'opposition, alors que là on voit une droite dure qui est arrivée au pouvoir par les urnes, certainement de manière démocratique, mais qui est en train de transformer les institutions démocratiques pour perpétuer son pouvoir et être en mesure de prendre des décisions sans aucun égard pour l'opposition, pour la presse, pour les libertés publiques élémentaires. Et je crois qu'en effet, pour les Européens, c'est une situation extrêmement grave qui devrait nous alerter beaucoup plus que ce n'est le cas actuellement.
Alors la Commission européenne s'en préoccupe, mais la Commission européenne étant elle-même dans une position affaiblie par les gouvernements européens,
oui,
on attend évidemment que les gouvernements européens s'en préoccupent sérieusement, d'autant que dans quelques mois, ça va être une année riche en élections, l'année 2012. Il y aura à l'automne, je crois, des élections en Autriche. Et vous faisiez allusion à la place du parti d'extrême droite autrichien, le FPO. Il n'est pas exclu que ce parti progresse aussi et s'approche du pouvoir en Autriche. En tout cas, ça devient, je pense que c'est une situation qui va devenir extrêmement urgente. Jean-Claude Casanova, à moins que vous n'ayez un mot à dire, on change de sujet?
Oui, on change de sujet parce qu'il faudrait connaître juridiquement le fond du dossier. Je reconnais que ça m'échappe un peu.
Écoutez, c'est très simple. Les dispositions de la Constitution qui ont été adoptées sont totalement contraires aux normes de Copenhague. Donc, de ce point de vue-là, me semble-t-il, les conditions, les conditions d'une non-adhésion de la Hongrie sont réunies. Mais après, que peut-on faire?
Ça peut commencer par le retrait du droit de vote dans les instances européennes aux Hongrois, si vous voulez, des sanctions de ce type, ou de soumettre éventuellement aux autorités juridictionnelles de l'Union européenne les décisions. Enfin, il y a manifestement des moyens de pression existent. Mais pourquoi ne veut-on pas les utiliser? Qu'est-ce qui explique la timidité gouvernementale? L'économiste avait l'air de dire que c'était parce que les dirigeants européens se réunissaient tous les mois et qu'ils s'instauraient entre eux une camaraderie qui leur interdisait ce genre de choses. Mais enfin, c'est une camaraderie qui serait mauvaise politique.
Je ne sais pas, Alain Frachon.
Non, enfin, il y a eu deux ou trois lettres déjà du président de la Commission, Barroso, au Premier ministre. Orban, à Viktor Orban, mais il y a plus intéressant parce qu'on mésestime toujours cette institution qui, à mon avis, est le dernier endroit où souffle un peu l'esprit communautaire européen. Le Parlement européen, lui, a entamé une procédure pour faire exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire soumettre la constitution, le projet de constitution hongroise aux paramètres de Copenhague et voir sa compatibilité avec les normes de Copenhague. Je crois que c'est l'article 7 du traité de Lisbonne qui est plus ou moins agi en ce moment. Et on attend, pour savoir où va cette procédure, une réunion du Parti populaire européen qui, au Parlement européen, regroupe la plupart des partis de droite classique, de centre-droit classique, à l'exception des Tories britanniques qui s'en sont retirés, pour savoir si cette procédure va aller à son terme ou non. Auquel cas, elle soumettrait, pas seulement la Commission, mais elle soumettrait une des prochaines réunions du Conseil européen, donc des gouvernants, elle les placerait devant leurs responsabilités.
Voilà donc ce que nous pouvions dire à ce stade sur cet autre sujet, la Hongrie, qui va aussi être un des éléments clés de l'année qui a été entamée il y a quelques jours. Donc, dernier sujet, avant de nous séparer, ce qui se passe en Iran, où il me semble que là, c'est toujours la suite évidemment de la question nucléaire iranienne, mais il y a eu des manœuvres, menaces iraniennes, contre-menaces américaines pour le contrôle du détroit d'Ormuz, qui est évidemment la clé de l'approvisionnement pétrolier, notamment de l'Europe, mais aussi au-delà de l'Europe. Alors, faut-il croire à une confrontation? Comment évoluent les choses? Ou est-ce que la toile de fond qu'il faut regarder peut-être plus attentivement n'est-elle pas l'ébauche d'un affrontement ou d'une ligne de fracture qui deviendrait confrontation entre l'univers chiite d'un côté et l'univers sunnite de l'autre, Alain Frachon?
En tout cas, je relève que cette question de l'Iran est, avec la politique commerciale de la Chine, unanimement dénoncée par les républicains et les démocrates, la seule question de politique étrangère qui est venue d'ores et déjà dans la campagne électorale américaine et notamment dans celle des primaires, avec au moins Mitt Romney et Santorum reprochant aux États-Unis de ne pas être assez belliciste et menaçant sur le plan militaire à l'adresse de l'Iran. À mon avis, on est dans une configuration extrêmement dangereuse. J'en vois au moins deux points, deux paramètres. Le premier, c'est le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique cet automne, en octobre, qui écrit noir sur blanc, c'est donc l'Agence des Nations Unies chargée de contrôler la prolifération nucléaire, donc, ce ne sont pas des gens qui écrivent ça de manière irresponsable ou particulièrement militante ou biaisée, qui disent « nous n'avons aucun doute, le programme nucléaire iranien a des fins militaires », ce que dément Téhéran. Donc, à partir de là, comme chaque année, chaque fois qu'on franchit le mois de décembre, on a un regain d'alarmisme sur la future bombe nucléaire iranienne. Elle serait pour dans 9 mois, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, etc. Cette fois-ci, on a, deuxième paramètre, un ministre israélien de la Défense, l'ancien travailliste Ehud Barak, qui lui aussi
se met à être extrêmement alarmiste, comme le Premier ministre Netanyahou, sur ce dossier. Alors ils sont en minorité en Israël, parce que les militaires sont contre une intervention militaire, et les services de renseignement aussi sont contre une intervention militaire. Ils pensent qu'elle serait contre-productive et qu'elle n'aurait pas de sens. Mais vous avez quand même deux des plus hauts responsables de l'État israélien, qui appartiennent à des familles politiques différentes et qui ont une histoire différente, qui disent « attention, voilà, d'ici 9 à 12 mois, on ne pourra plus rien faire pour empêcher l'Iran d'avoir une bombe atomique parce qu'ils auront totalement disséminé leur programme destiné à, avoir, ou à pouvoir se doter un jour de l'arme atomique. » Et vous avez, venant des États-Unis, une petite musique qui commence aussi à aller dans ce sens-là. C'est le deuxième paramètre. Et un parti républicain qui est en train de pousser Obama à être plus dur là-dessus, qui est en train de le tester, de le soumettre au grill de sa virilité sur cette question. Troisième paramètre. Vous avez une bataille pour le pouvoir comme il n'y en a jamais eu dans la République islamique à Téhéran. La République islamique a toujours été multicéphale. Il y a toujours eu beaucoup de têtes qui gouvernaient ce pays. Et ils se sont toujours arrangés pour se partager le pouvoir, ne pas mettre sur le devant de la scène publique leurs désaccords. Bref, ils se sont toujours arrangés pour que les guerres internes qu'il y avait entre eux ne débordent pas et ne menacent pas la République islamique. Là, il y a maintenant deux camps. Les couteaux sont tirés comme jamais à Téhéran, le camp du Premier ministre et le camp du président de la République. Et comme toujours dans ces situations-là, la surenchère se fait sur les positions de plus en plus radicales. C'est-à-dire qu'il faut défier les États-Unis, il faut défier les Occidentaux. Et il faut essayer de rallier l'opinion intérieure sur le thème de l'agression extérieure qui va venir. Donc voilà, je vois au moins trois paramètres auxquels j'en ajouterai un quatrième, celui que vous avez dit précédemment, qui est que au Proche-Orient aussi, le printemps arabe et l'évolution des choses a réorganisé l'ensemble des forces. Eh bien, au Proche-Orient, on voit l'Iran sur la défensive. Le printemps arabe donne l'occasion d'un resserrement des liens entre les sunnites, si vous voulez. L'Arabie saoudite et le Qatar financent tous les partis islamistes qui sont sur le point d'entrer au gouvernement et de prendre des responsabilités dans le monde arabe pour resserrer l'arc sunnite avec comme ennemi le seul pays arabe jusque-là qui a un accord stratégique avec l'Iran, c'est la Syrie. Donc si on voit qu'en plus le régime syrien tombe, Téhéran se sentira de plus en plus isolé. Voilà quatre paramètres qui paraissent dessiner une configuration, me semble-t-il, particulièrement dangereuse.
Daniel Vernet.
Oui, deux ou trois remarques aussi. La première, c'est pour revenir à ce qu'on disait au début de l'émission, le redéploiement américain vers l'Asie, certes, mais aussi avec le maintien de la puissance, de la présence américaine dans la région du Proche-Orient et dans la péninsule arabique. Donc ça, c'est très important parce qu'effectivement, l'Iran est aussi une des cibles des États-Unis. En tout cas, c'est de là que pourrait venir une menace. La deuxième remarque, c'est que jusqu'à maintenant, des sanctions ont été appliquées à l'Iran. Ces sanctions vont peut-être être aggravées, renforcées. Les Européens en discutent. Mais il faut bien dire que cette politique, jusqu'à maintenant, n'a pas porté beaucoup de résultats et que le programme nucléaire iranien s'est poursuivi malgré ces sanctions. Donc si en effet on est à la veille d'avoir un Iran nucléarisé, il faut trouver d'autres moyens, et on ne voit pas guère d'autres moyens que une intervention militaire qui pourrait être faite soit par Israël, soit par Israël avec l'appui des États-Unis, ce qui rendrait la situation extrêmement dangereuse. Et puis peut-être troisième remarque, c'est que cette ligne de partage entre chiites et sunnites passe dans un pays, au milieu d'un pays qui a été envahi par les États-Unis.
Absolument. Qui est l'Irak,
au cours des dernières années. C'est l'Irak, et ce qui montre aussi le grave échec de la politique américaine sous George W. Bush dans cette région. Et là, maintenant, les États-Unis se retrouvent dans une situation pire que ce qu'elle était en 2003.
Jean-Claude Casanova, quelques mots.
Non, je dirais simplement que les Iraniens ont l'expérience de l'action politique en période électorale américaine, puisque c'est eux qui ont provoqué délibérément l'échec du président Carter. Mais je ne sais pas ce qu'ils feront dans les 6 mois qui viennent. Mais Daniel Verdet vient bien de poser le problème. Si les sanctions, même à un degré plus élevé, ne sont pas efficaces, s'il doit y avoir une intervention soit d'Israël seul, soit d'Israël appuyé des États-Unis, ou d'Israël seul, mais les États-Unis étant obligés d'appuyer, surtout en période électorale, on ne voit pas le président des États-Unis lâchant Israël. Si on se trouve devant cette situation, personne aujourd'hui ne peut dire que la solution militaire sera efficace et ne sera pas catastrophique. Donc, je pense que pour cette raison, si vous voulez, la prudence retiendra Israël ou les États-Unis d'une intervention militaire. S'il y avait la certitude d'une intervention militaire efficace, peut-être qu'elle pourrait se faire. Mais une intervention militaire, aujourd'hui, tout le monde dit qu'on n'est pas sûr, que ça sera très difficile, qu'il y aura des conséquences extrêmement graves en Irak et ailleurs, qu'il y aura une crise pétrolière, etc. Donc logiquement, Obama préfère aller à son élection sans intervention. Et est-ce que les Israéliens lanceront le bouchon aussi loin? Par tempérament, je suis toujours optimiste, donc j'écarte plutôt l'hypothèse de la guerre, mais s'il n'y a pas d'autre solution aux yeux des Israéliens, elle se fera.
En tout cas, pour prolonger juste d'un mot ce que disaient Alain, Daniel et vous-même, on ne dira jamais assez les dégâts stratégiques de l'opération américaine en Irak. Dégâts économiques, on ne dit jamais que le poids de la guerre dans la crise actuelle et notamment dans la crise de l'endettement américain est considérable.
Ah oui,
et on ne dira pas à jamais assez à quel point l'Irak est quelque chose de désastreux aujourd'hui, avec manifestement une emprise de plus en plus grande de l'Iran sur l'Irak chiite, peut-être avec à terme une partition de l'Irak d'ailleurs. En tout cas, pour l'Iran, il est devenu impératif de contrôler l'Irak chiite à mesure que s'affaiblit la Syrie. Voilà, ça c'est une autre histoire et on y consacrera vraisemblablement, certainement, sur ce théâtre-là, une autre émission. Merci en tout cas pour ce très rapide panorama des grands enjeux internationaux de l'année 2012. Merci à Alain Frachon, qui est directeur éditorial au Monde. Merci à Daniel Vernet, éditorialiste à Slate et qui anime le site d'information boulevardextérieur.fr. Avec nous aujourd'hui, nous avions à la console technique Francis Pascal, réalisation évidemment Brigitte Bouvier, comme de coutume et comme chaque semaine, préparation Meryl Moneghetti, donc toute l'équipe était bien là au rendez-vous de cette nouvelle année. Merci à vous toutes et à vous tous de nous renouveler votre fidélité. Jean-Claude Casanova et moi-même vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre rumeur du monde. Thank you.